Est-ce que ça t'arrive encore de piquer des colères, Maëlle?
Bah non.
Attends. Non, parce que tu sais, genre quand t'es enfant, c'est un truc que tu fais très souvent. Enfin, je veux dire, c'est un peu un truc, c'est un peu l'émotion primaire chez les enfants, j'ai l'impression. Genre ce truc de. Dès qu'il y a, un inconvénient, quelque chose qui te déplaît, souvent la première émotion qui sort, c'est la colère. Et ça peut se mêler de pleurs et de tristesse, etc. Mais c'est souvent. On a vraiment l'image de l'enfant qui est contrarié, qui crie, quoi.
Oui, et qui tape les autres, qui se fait mal tout seul. Parce qu'en fait, généralement, comme ils ne maîtrisent pas le langage, ils n'ont pas de façon d'exprimer leur colère qui soit claire. Et ça peut, comme ça ne peut pas passer par la parole, ça passe par les gestes
ouais, c'est
et l'affect.
Il y a l'idée que, en fait, si tu n'as pas les mots pour la définir, la colère est tellement puissante qu'elle te dépasse, quoi. Et donc, tu te laisses submerger et tu as envie de tout casser.
C'est ça, exactement. Et elle est rarement créative, la colère des enfants, j'ai l'impression.
Ouais, c'est très... Ouais, c'est intuitif. Et
presque
coup,
animal en fait.
Ouais, et instantané un peu.
Ouais.
C'est aussi très passager. Genre, il suffit de leur donner un bonbon et ça passe.
Et alors, comment est-ce qu'on apprend à être en colère au final?
Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a un... C'est vrai, est-ce qu'on peut apprendre à être en colère? Est-ce qu'on peut apprendre à canaliser cette colère?
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme.
Je pense en effet que le rôle d'un philosophe, c'est de déranger. Un philosophe qui arrangerait, qui réarrangerait les choses, ne jouerait pas, je crois, le rôle qu'on doit jouer actuellement, le philosophe et la philosophie. Mais on ne dérange jamais assez, enfin, en tout cas, j'ai eu conscience d'avoir dérangé bien peu et bien moins que je n'aurais voulu.
À vrai dire, au jardin, je n'aime bien travailler, car je suis littéralement absorbé par les formes, les couleurs, la lumière et... Je préfère l'ombre du bureau pour écrire.
Le vrai amour a toujours la possibilité de renoncer à tout ce qu'il faut, à tout ce qui est à moi, tu vois, pour quelqu'un d'autre. Je suis responsable de la misère d'autrui, même souvent de la bêtise d'autrui.
Bienvenue sur Radio Pio.
Vous écoutez Radio Pium et vous êtes en compagnie de Maëlle Bouvray et moi-même, c'est-à-dire Marianne Varem. Et aujourd'hui, on va parler de la colère. Alors Maëlle, fais-nous un point étymologique sur ce qu'est la colère.
Alors la colère, elle vient du grec choléra et c'est intéressant de voir que c'est finalement le nom qui a été donné à l'épidémie. Donc ça évoque déjà la colère comme une maladie, quelque chose de malsain qui vous envahit comme une épidémie. Et d'ailleurs, la signification de ce terme à l'époque, c'était à la fois colère et bile. Donc il y avait déjà le sens médical qui était impliqué dans le terme de colère.
Ouais. Donc c'était une dimension très très péjorative finalement. Enfin, genre, je sais pas, je trouve que rapprocher ça de la bile, c'est vraiment rapprocher ça de quelque chose d'aigre et d'agressif, on va dire.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à l'époque, on devait considérer, à l'Antiquité, comme c'était le règne de la raison, des grands philosophes, etc., on devait considérer que la colère, c'était l'inverse de l'état raisonnable, et donc que ça pouvait mener à des dérives d'agressivité et d'immoralité.
D'accord.
Ce n'est qu'une spéculation.
Ce n'est qu'un aspect de la chose, probablement.
Ouais.
Et on pourrait se demander, en fait, est-ce que la colère, c'est nécessairement négatif? Est-ce que c'est nécessairement destructeur? Parce qu'on l'assimile souvent, oui, enfin moi, je sais pas pourquoi, quand je pense à la colère, je pense au feu. Je pense à ce qui ravage tout, ce qui nous dévore de l'intérieur et ce qui peut dévorer ce qui nous entoure aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi l'image qu'on peut avoir quand on pense par exemple aux manifestations. Les premiers trucs qui nous viennent en tête, c'est des déchaînements de colère. Et voilà, quand on a une image négative des manifestations, on peut avoir l'image de destruction, etc.
C'est ça, et puis même des gens lambda en colère, hein, comme on peut en voir dans notre famille, qui cassent des choses autour d'elles, qui crient et qui ont du mal à se maîtriser.
Il y a
vraiment la notion de contrôle et de maîtrise de soi-même qui entre en compte quand on parle de la colère.
Et pourtant, souvent, il y a une raison en fait, derrière cette colère. Il y a quelque chose qui motive cette colère. Et même si c'est une réaction qui est plus ou moins instinctive, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine légitimité en fait, à être en colère. À vouloir, par exemple, casser des objets, peut-être parce qu'on a besoin en fait, de projeter cette souffrance, ça peut être de la souffrance, ça peut être autre chose, je ne sais pas, mais sur l'extérieur, en fait, qu'on a besoin d'extérioriser quelque chose qui bouillonne de l'intérieur, on pourrait dire.
Oui, c'est ça, c'est une forme d'extériorisation de l'état affectif. C'est d'abord ça, la colère, en fait. On a dit que c'est l'inverse de la raison, ce n'est pas forcément une raison de les opposer, mais en tout cas, c'est un état affectif. Et violent et très vif. Et c'est pour ça qu'il s'agit de savoir en fait si cet état affectif peut être utilisé à des fins morales aussi.
S'il y a une possibilité d'instrumentaliser cette colère, entre guillemets, et de la transformer en quelque chose soit d'artistique ou peut-être même de politique, finalement.
Exactement. On va commencer cette réflexion sur la colère en commençant par parler de sa dimension morale et on va en revenir du coup à l'Antiquité puisque le terme était déjà présent, comme on l'a dit, avec l'étymologie. Et justement, le sens de cette étymologie résonne avec l'idée de Platon qui considérait que la violence fonctionnait comme une puissance contaminatrice qui détruit ce qui se trouve autour d'elle. Donc là, ça nous fait penser aussi à l'épidémie du choléra. Et en fait, dans la République, Platon associe la colère à l'homme tyrannique, l'homme qui est gouverné par l'éros et qui va détruire ce qui se trouve autour de lui et soumettre les autres. Donc là, on voit que la colère, finalement, c'est une puissance qui est contraire à la raison, au sens où elle désorganise, elle détruit et elle déstructure. La colère, elle est très clairement associée à une pulsion, et le rôle de la raison, chez Platon, dans la République, c'est justement de gouverner ses pulsions, gouverner le cœur et le corps. Parce qu'on se rappelle que dans la République, il y a toute cette pyramide avec la raison qui gouverne le tout, qui gouverne les affects, mais aussi les pulsions corporelles. Donc l'idée de Platon, elle est assez basique finalement, et je pense que tout le monde l'a un peu en tête, parce que dans le sens commun, c'est un peu comme ça que la violence, elle est perçue, enfin la violence liée à la colère. Mais Aristote vient nuancer ce propos, et c'est pour ça que je le mobilise maintenant. C'est-à-dire que Platon oppose la colère et la raison, alors qu'Aristote fait de la colère une raison sensible. Donc c'est plus opposé à la raison. C'est une raison sensible, parce que ressentir de la colère, c'est se rendre compte qu'on est face à une situation injuste. Et donc, par contre, Aristote, il fait une distinction entre colère et violence, et ça aussi c'est intéressant, c'est qu'il parle de la saine colère dans De Anima, de l'âme. Et en gros, il analyse la colère physiologiquement comme l'ébullition du sang dans le cœur. Donc il y a quand même une dimension corporelle, mais ça veut dire que cette réaction, elle est toute instinctive et toute légitime face à une situation d'injustice. Et pour lui, la saine colère, c'est un juste milieu entre être irascible, donc trop colère, et l'impassibilité, c'est-à-dire pas réagir. Voilà.
Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une certaine nécessité à exprimer la colère, quoi. Et que on peut pas l'outrepasser, on va dire.
C'est ça. Et ça fait même partie un peu des vertus morales de se mettre en colère de la bonne façon, c'est-à-dire de manière quand même... Voilà, c'est pas une colère qui éclate tout, c'est se mettre en colère, savoir l'exprimer, c'est-à-dire pouvoir argumenter face à l'autre, se défendre, pouvoir lui répondre, peut-être même se battre. Ce sera jamais une colère folle, comme on peut dire. Donc ça reste un ancien. Enfin, on voit que ça reste quand même très ancré dans la philosophie antique. Mais ce qui est intéressant, c'est justement qu'ils ne mettent pas la colère en opposition à la raison et qu'ils ne la considèrent pas vraiment comme un état de folie, à moins que la colère atteigne vraiment des extrémités, quoi.
J'allais dire à partir de quel moment, enfin, où se trouve la limite finalement, du coup, entre la colère raisonnée et la colère irascible. Enfin, c'est très difficile, je trouve, de situer le point de séparation entre les deux.
C'est ça. Bah, l'un des critères, d'abord, c'est le caractère injuste ou pas de la situation. C'est que pour Aristote, on ne peut pas se mettre en colère pour rien, déjà. Il faut qu'il y ait une raison, qu'il y ait eu un affront envers ta famille ou toi. Je crois qu'il prend l'exemple de l'Iliade un moment et que la colère d'Achille, elle est juste dans la mesure où on a tué son ami.
Ouais.
Donc ça, c'est un peu logique et tu peux même aller très loin dans la colère avec ça, mais si tu te mets en colère pour rien... Genre j'ai eu 12 ODS, bon ok, tu vas pas non plus péter un câble dans la cour. C'est pas...
Mais c'est sûr que ça reste quand même aussi... Enfin, on va dire que la définition de la colère raisonnée, elle reste très située aussi dans le sens où ça dépend vraiment de... la personne que tu as en face de toi, de qui tu es, de ton vécu. Et j'ai envie de dire, par exemple, tu sais, il y a plein de gens qui vont débattre avec toi et qui vont présenter leur manière de présenter leur colère et leur véhémence comme quelque chose de raisonné, de raisonnable. Mais quand tu es face à eux, tu te rends bien compte que parfois, ce qu'ils disent, c'est violent et blessant. Et qu'en fait, c'est parfois, parce que la colère est maîtrisée, c'est peut-être même plus vicieux et plus violent, dans un sens, que simplement casser quelque chose. Donc c'est ça qui est assez particulier, je trouve, dans la colère. C'est que, justement, le fait de la canaliser, parfois, ça peut... Comment dire ? Ça peut servir d'excuse, justement, à la diffusion de messages plus violents et plus dangereux.
Et là, tu soulignes un paradoxe intéressant chez Aristote, puisque lui, il différencie la saine colère de la violence. Alors que là, on est en train de montrer, finalement, que c'est peut-être plus violent d'être... en colère de façon saine, c'est-à-dire de façon hyper rationnelle. C'est encore plus vicieux, comme tu as dit. Donc c'est vrai que c'est très intéressant.
En effet. Mais du coup, après, on pourrait aussi s'intéresser, par exemple, à la conception de Nietzsche, qui dit que bah en fait, la colère, c'est vraiment une expression de la volonté de puissance et qu'en fait, dans tous les cas, elle doit être exprimée. Et peu importe ce qu'elle est, finalement, peu importe jusqu'où elle va, du moment que ça nous permet d'affirmer notre volonté de puissance et de montrer qu'on est fort, bah... Donc en fait, je pense que ça dépend aussi quelle est notre boussole morale et où est-ce qu'on situe justement la limite. Et je pense que tout le monde a un peu une limite différente, j'ai l'impression, en termes de ce qui est acceptable ou pas en termes de colère.
Bah, c'est sûr qu'on a des limites personnelles. Après, c'est vrai que chez Aristote, il y a cette idée de boussole morale, justement, puisque chacun a en soi une conscience morale qui est aiguillée à la fois par des lois morales qui sont universelles, objectives, et aussi par des limites personnelles. Et c'est en ça qu'il est intéressant, ce terme de boussole. Après, chez Nietzsche, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, en fait, qu'il considère la colère comme quelque chose de moral ou pas, mais plus comme quelque chose d'amoral, dans le sens où c'est complètement factuel et dans la mesure où ça s'inscrit dans le processus vital.
Ouais, c'est essentiel, en fait, c'est constitutif de l'individu et c'est un truc, du coup, qui ne peut pas vraiment contrôler. Mais qui peut peut-être sublimer, pour le coup.
Ouais.
Ce qui est encore un autre pan de la colère, je pense.
Exactement. Exactement. Après, il y a quand même cette duplicité chez Nietzsche. Parce que, d'une part, il y a cette citation très connue sur « Il faut porter un chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante ». Ça, c'est toute la perspective sur l'art, où il faut souffrir pour produire un art, tout simplement.
Ouais.
Après, il pense quand même que l'art se travaille, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même cette idée selon laquelle il faut se défendre face aux autres.
Ouais.
Cette idée selon laquelle le monde est quand même structuré de façon binaire entre les maîtres, les esclaves, les forts et les faibles. Mm-hmm. Et que si on ne veut pas être un faible, il faut quand même se battre avec les autres et faire sa place au soleil, quoi, parce que sinon...
Donc c'est à ça aussi que la colère, elle nous sert, je pense.
C'est ça, et il a quand même une conception très évolutionniste de ben, si t'exprimes pas ta colère, si t'es pas violent envers les autres, ben, en fait, tu seras juste éjecté de l'écosystème humain, quoi.
En fait, il part du principe qu'il y a nécessairement des rapports de domination entre les individus,
c'est ça.
Et que la colère, c'est justement ce qui permet à l'individu de se placer en position de supériorité dans ce rapport de domination-là, et en fait... Ou alors, justement, de sortir de sa position d'infériorité et d'essayer de la dépasser, quoi.
C'est ça.
Mais...
C'est quand même critiquable, parce qu'en fait, une thèse comme ça, on peut l'émettre que si on a soi-même une position de dominant dans la société, que si on est un mâle blanc dans
si une
société
Nietzsche, allemande,
enfin voilà, si on est un grand intellectuel. Voilà, quand on est un penseur comme ça, on peut que, finalement, affirmer des rapports de domination qui peuvent pas être équilibrés.
Complètement.
Et on peut quand même se demander si ça vaut vraiment la peine... de voir le monde ainsi et d'exprimer sa colère pour
ouais parce qu'en fait
écraser les autres,
c'est ça en fait, quel intérêt finalement aussi de vouloir nécessairement s'insurger par la violence contre les autres et de vouloir dépasser sa condition en essayant de dépasser les autres et de à nouveau en fait occuper la position qu'on reprochait aux autres à l'origine.
C'est ça,
en fait.
Y a un caractère cyclique et infernal qu'on retrouve dans la vengeance même.
Ouais,
c'est
complètement.
Que en fait si on reproduit la violence elle s'arrêtera pas et ça continuera à se mouvoir dans un cycle dont on aura du mal à sortir.
Mais du coup, c'est de là que ça vient, finalement, aussi. Du coup, on comprend mieux, du coup, la conception d'Aristote, en fait. On comprend beaucoup mieux cette conception-là, parce qu'on se dit, bah, oui, en effet, il y a une bonne manière d'être en colère, entre guillemets, et la mauvaise manière, en tout cas, d'utiliser sa colère, ça serait de l'utiliser pour écraser les autres. Et la bonne, ça serait de l'utiliser pour dépasser sa condition, mais s'élever, en fait.
Oui.
S'élever, pas dans le sens... dans une position de supériorité, mais... dépasser la souffrance et
toutes ces préoccupations
et toutes les vicissitudes de l'existence.
Voilà, c'est très problématique. Ce qui est très problématique chez Nietzsche, c'est de biologiser ces rapports de domination, parce que ça les rend indépassables et
ça veut vraiment dire
qu'il n'y avait pas d'autres solutions possibles.
C'est déterministe en fait presque.
Voilà.
C'est-à-dire que tu nais dans une position inférieure ou supérieure et donc la seule chose que tu peux faire, c'est être en colère contre ça.
Ouais.
Enfin...
C'est un peu... Bah, ça se ressent dans ton écriture, hein, de toute façon.
Bon, de toute façon, je pense que Nietzsche était lui-même très en colère, si vous voulez mon avis.
C'est
sûr. Ça se ressent que... À mon avis, il espère faire partie des forts, mais il a très peur de faire partie des faibles. Voilà.
C'est fort possible.
Bon, c'est mon point de vue subjectif, bien sûr, sur la philosophie de Nietzsche. Et du coup, j'aimerais bien revenir sur un point qu'on a évoqué, juste avant, qui était l'idée que Nietzsche défendait, qui correspond au fait que la colère, en fait, elle peut être sublimée. Et justement, Nietzsche, par exemple, dans Le Gai Savoir, il parle beaucoup de la capacité à sublimer les émotions, et notamment la colère, par l'art. Et je trouve ça assez intéressant de se pencher sur ça, parce que peut-être que l'art, c'est aussi un moyen de mieux saisir, enfin, ça permet de mieux saisir ce que c'est la colère, parce que souvent, la colère, bah, c'est mêlé à plein d'autres émotions, et j'ai l'impression que des fois, ça provient d'une certaine souffrance, ou ça mène à la souffrance, ça peut être, exprimé par des cris, mais aussi par des larmes, parfois par un rire nerveux, ça peut être plein de mêlé de plein d'émotions différentes, et j'ai l'impression que l'art, souvent, parvient à canaliser ça, ou essaye en tout cas de le faire.
C'est vrai qu'on ne sait pas si dans l'art, il y a une représentation vraiment pure de la colère. Parce qu'à chaque fois, elle est saisie dans sa complexité.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai qu'on a du mal à faire la part des choses. On voit que c'est agressif, que c'est... Mais c'est vrai que ça dépasse parfois même le spectre de la colère. Et je pense au tableau de Francis Bacon, qui a repris la peinture de Velázquez, le portrait d'Innocent X, qui est assez connu. Bon, en gros, la peinture de Velázquez, c'est juste une représentation très classique du pape. Et Francis Bacon la transgresse et la reprend en mettant le pape dans une chaise électrique en train d'hurler. Voilà, mais c'est quand même... Alors, il y a évidemment une dimension grotesque, mais les couleurs grotesque. Violettes, jaunes et le cri qui est souvent repris justement dans les films d'Eisenstein. Francis Bacon, il s'inspire beaucoup des cris qu'il y a par exemple dans le Cuirassé de Potemkin et tout. Donc ça donne vraiment une image ultra vénère dans le tableau. Et c'est vrai qu'à la fois, ça exprime beaucoup de colère, mais là, on a l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'électrisant,
ouais.
Qui est peut-être pas propre à la colère, mais plus à l'impatience ou... Voilà, ou à la pression du pouvoir.
Ouais. Mais en fait, du coup, c'est marrant parce que tu disais qu'il y avait une dimension un peu ridicule, enfin, ouais, qui prête à rire, en tout cas, dans cette représentation-là du pape. Et je me disais, mais les caricatures, par exemple, est-ce que ça émane... Enfin, les gens qui caricaturent les personnalités politiques, etc.
Ah, oui.
Il y a aussi souvent une forme d'expression... Ouais, une expression de la colère, tu vois, et de la colère envers le pouvoir, les agissements politiques, etc. Et donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le rire, l'humour, ça peut permettre aussi d'exprimer cette colère-là et de lui donner une forme de légitimité ou d'intelligence.
C'est ça, parce qu'il y a une forme de spiritualité dans les dessins. Par exemple, si aujourd'hui on ouvre un album de Charlie Hebdo, on aura 10 000 représentations de Macron qui sont tout aussi ridicules les unes que les autres.
Ouais.
Et c'est parce que ça vient justement de cette colère-là des dessinateurs qui veulent le tourner en dérision.
Ouais.
Et c'est peut-être la forme d'art qui se rapproche de plus du rire nerveux comme réaction.
Ouais, complètement.
J'ai l'impression que c'est vraiment associé les deux.
Et c'est peut-être pour ça, enfin, je pense que j'ai l'impression aussi que la caricature, c'est quand même un art et quelque chose qui lui-même suscite la colère des personnes qui le reçoivent, en fait. Parce qu'il y a une dimension des traits d'intelligence, on va dire. Et ça, vu que ça vient pas de la souffrance et qu'il y a une forme de... plutôt de revendication et presque un peu de revendication de position de supériorité, un peu comme, comme le défend Nietzsche, bah, c'est plus énervant, c'est plus agaçant parce que c'est pas une forme, enfin, c'est pas une, une forme de victimisation à travers la colère, c'est vraiment une forme de...
D'affirmation. Et c'est intéressant parce que c'est un art qui provient de la colère et qui vise à mettre en colère celui qui t'a mis en colère. Enfin, il y a vraiment une circularité qui est intéressante avec les caricatures.
Donc ça se rapproche beaucoup de la vengeance aussi dans un sens.
Ouais.
Et c'est ça qui est intéressant. Alors que parfois, justement, il y a certaines formes d'art, certaines représentations de la colère qui ne sont pas du tout produites dans le but de se venger de cette colère qu'on subit, etc. Mais plutôt juste dans le but de l'extérioriser et un peu d'exorciser ce bouillonnement intérieur, on va dire.
C'est ça. Bah, ça, c'est vraiment Francis Bacon qui déteste la vie. Il a vraiment une vie minable et tous les tableaux qu'il peint sont noirs, obscurs, et c'est vraiment tourné autour du cri, de l'expression, de l'extériorisation de l'affect. Quoi.
Bah, ça me fait penser par exemple aussi au cri de Munch, ce tableau très connu, où d'ailleurs on ne sait pas trop si le personnage présent sur le tableau est en colère, triste, on ne sait pas trop pourquoi il crie, s'il crie d'effroi aussi.
Oui, il a peut-être peur.
Et c'est parce que j'ai l'impression que la colère, c'est quand même un peu un sentiment fédérateur aussi.
Ouais.
C'est quelque chose qui vraiment va mêler plein d'autres choses, quoi, on va dire. Mais je pensais aussi, quand on parlait de l'expression de la colère qui peut être un peu plus pure et moins dans une dynamique de vengeance, je pensais aussi à la musique.
Ouais.
Et notamment, par exemple, au hard rock. Enfin, j'ai l'impression que quand ces chanteurs, ces chanteuses poussent des cris, par exemple dans Rage Against the Machine, dans certaines chansons de Rage Against the Machine, il y a vraiment des moments où le chanteur crie. Mais c'est des sonorités, quoi. Enfin, il n'y a pas de mots, il n'y a rien. Et pourtant, c'est très artistique et... il y a quand même une sublimation de cette colère parce qu'il y a un fond musical et je trouve que c'est genre vraiment pur comme expression de la colère. Et il y a une sublimation
Le cri dans la musique, c'est peut-être l'expression la plus pure. Il y a une chanson de Pink Floyd comme ça aussi qui s'appelle Careful with that axe, Eugene. Et c'est vraiment genre le chanteur qui crie. Mais c'est très beau, hein. Ouais. Au final. Mais c'est un cri très différent du hard rock, parce qu'il n'y a pas les guitares derrière. Enfin, c'est... Ouais. Derrière, c'est une musique qui est assez calme, paisible. Et il y a juste ce hurlement qui est vraiment très beau.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi là-dedans, notamment dans la musique, c'est la dimension cathartique, tout simplement, ouais. aussi, de ces œuvres-là. Je trouve ça incroyable. Enfin, personnellement, quand je suis énervée, j'écoute du hard rock. Et ça m'aide vraiment.
Ça fait
vraiment,
tellement du bien d'écouter ces chansons-là, parce que... Ouais. T'es en colère, t'écoutes ça, mais au final, ça te redonne foi peut-être, ou ça te donne de l'énergie, et quelque chose de très galvanisant dans le hard rock, même le punk, au final. Ouais.
Et il y a une forme d'empathie, en fait, du coup, dans cette colère-là. En fait, à partir du moment où elle est exprimée par quelqu'un, tu peux, toi, en fait, te reconnaître dans cette expression-là, et donc il y a vraiment une forme de connexion interpersonnelle entre les colères, et ça rend la colère beaucoup plus juste, j'ai l'impression. Enfin, t'as l'impression que ta colère est plus juste et qu'elle est légitime, en fait, quand tu... La saisie chez quelqu'un d'autre aussi.
Exactement. Et puis après, moi, je connais pas toute l'histoire du rock, etc. Mais le punk, c'est quand même vachement politique à la base.
Ouais.
Ça aborde des thèmes qui sont très politiques. Mm. Ça aborde des injustices. Ça aborde la haine du système capitaliste, par exemple. Donc en fait, quand t'écoutes ça, tu te sens aussi appartenir à entrer dans une communauté. Là où quand t'es en colère, tu peux te sentir aussi très seul.
Ouais, totalement. Et ouais, bah c'est ça qui est génial finalement avec cette sublimation par l'art de la colère, quoi. Et en vrai, du coup, ça nous mène un peu à notre prochain point, qui serait de s'intéresser à la dimension plus politique de la colère et à son instrumentalisation. Et maintenant, pour rester dans le thème de la colère, nous allons écouter une chanson de The Last Dinner Party qui s'appelle « The Feminine Urge ».
Yeah.
venez d'écouter The Feminine Urge de The Last Dinner Party. Mais alors du coup, en fait, on pourrait penser que la colère, c'est aussi un moteur politique, un moteur de changement politique, c'est même le moteur de changement social et politique. Parce que sans la colère, on peut se demander où se trouverait la résistance et comment la résistance pourrait émerger, la résistance envers certains régimes politiques, certaines mesures, etc. Je pense qu'on a besoin, en fait, de cette colère-là, peut-être.
Bah, j'ai envie de dire, face à un gouvernement, soit on est satisfait, soit on l'est pas. Et si on l'est pas, souvent, on se met en colère, parce que nos droits sont niés ou autres.
En fait, il y a la possibilité, on va dire, de s'opposer sans la colère, mais généralement, le recours à la colère est nécessaire parce que sans la colère, c'est difficile d'être entendu, je pense. Et c'est justement ce dont parle Audrey Lorde dans son ouvrage The Uses of Anger, où elle dit justement que la colère, c'est un instrument de résistance politique. Et elle, plus particulièrement, elle parle d'un instrument de résistance féministe et antiraciste, où bah, elle explique que sans la colère, c'est très difficile pour les personnes minorisées, donc racisées, par exemple aussi pour les femmes, c'est très difficile pour elles d'exprimer leur point de vue et de se faire entendre parce qu'elles sont tout le temps silenciées, en fait. Silenciées par les plus puissants, par les dominants, on va dire. Et donc, en fait, la colère, c'est la réponse légitime à certaines oppressions et c'est le moyen, justement, le seul moyen, on pourrait dire, dans un système oppressif, d'exprimer son mécontentement et de dépasser sa condition, on va dire.
C'est ça. Et ça me fait penser aux suffragettes, parce qu'en fait, le mouvement suffragette en France, il est né en réponse au mouvement suffragiste au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et le mouvement suffragiste, il est d'abord réformiste. Mm. Il est dans l'argumentation, il est dans la discussion avec les politiques, sauf qu'elles ne sont pas écoutées parce que bah, c'est des femmes, du coup. Et donc les suffragettes l'ont bien compris et elles se révoltent. Mais ça ne fonctionne pas forcément sur le mode des manifestations, mais plutôt sur le mode de l'action violente.
Ouais.
La colère, elle est exprimée comme ça, par exemple, je crois que c'est Emmeline Pankhurst qui fait une grève de la faim et qui s'attache au barreau du Luxembourg avec sa fille, elle refuse d'être nourrie. Et c'est une image qui est très violente en soi-même, c'est l'expression d'une colère qui est hyper parlante et contrôlée. Et il y a aussi le suicide public d'Emily Davison à l'hippodrome, qui se jette sous un cheval. Ouais. Voilà, c'est des actions comme ça qui sont plus visibles que... écoutable, on va dire, parce que de toute façon, la voix des femmes à l'époque ne l'était pas. Donc, il fallait de l'image, il fallait de la photographie, il fallait du journalisme, en fait.
Et en fait.
Que la parole soit relayée.
C'est ça, et puis en fait, je pense que du coup, ça montre bien la nécessité de la colère dans la mesure où aussi, en fait, la colère, elle surprend. Et en fait, c'est cette surprise-là qui permet de se faire entendre, parce que, en fait, elle jaillit. Et il y a un peu un côté imprévisible, enfin, dans la colère, c'est ce qu'on disait, c'est quelque chose de très instinctif. Et en fait, parce que oui, tu peux jamais prévoir à quel moment la colère va exploser, même si, bah en fait, il faut s'en douter aussi quand tu opprimes les gens d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais en fait, souvent, c'est quelque chose, c'est vraiment un changement d'état très soudain. Genre, tu peux être... tu peux avoir quelqu'un en souffrance en face de toi, qui le montre plus ou moins, mais quand il se met en colère, c'est tellement un changement radical, généralement, que c'est ça qui choque et c'est ça qui provoque, en fait, le fait que tous les regards se tournent vers la personne en colère. Et donc, en fait, c'est aussi pour ça, je pense que parfois, les gens vont aussi loin dans leur colère, c'est parce qu'ils se disent, si je fais pas ça, personne va être surpris, et ça va passer inaperçu. Et il y a ce besoin-là, en fait, d'aller jusqu'à la grève de la faim, et c'est une forme de sacrifice, du coup, à travers la colère, c'est ce que tu disais, et en fait, des fois, ouais, en fait, la colère, elle exige, on pourrait penser, en fait, qu'elle exige le sacrifice, enfin, c'est ça qui est assez paradoxal, parce que la colère, c'est censé être quelque chose de passager. Et c'est pas censé être quelque chose qui nous... Enfin, on n'est pas censé la laisser nous consumer, on va dire.
C'est ça. Et par rapport à la surprise, l'effet de groupe est encore plus surprenant que ce soit pour les suffragettes ou même aujourd'hui. Et Hannah Arendt, elle parle du côté existentiel de la confrontation violente, colérique du groupe.
Ouais.
Que les minorités opprimées se lèvent tout ensemble pour confronter l'État de façon violente, c'est quelque chose qu'elle caractérise comme une recherche d'immortalité en groupe, un peu.
Ouais.
Que c'est l'expression d'une vitalité, que c'est hyper galvanisant. Et en fait, plus le groupe est grand, plus c'est surprenant, marquant, et plus on a envie de provoquer un changement. Mais comme tu disais, c'est un état qui doit se penser à court terme. Mm. Cette colère-là doit être restée passagère. Et même Hannah Arendt, elle parle d'une arme transitoire brève.
Ouais.
C'est que la violence ne peut pas s'institutionnaliser il doit rester un instrument.
Ouais, parce que bah, justement, puisque Hannah Arendt travaille sur les totalitarismes, il y a sûrement aussi cette idée-là que bah, les totalitarismes, les régimes totalitaires se fondent sur la violence. Mmh. Et que c'est en ça qu'ils bah, deviennent oppressifs. C'est parce qu'en fait, il y a le contrôle des populations par la peur et par la peur de la violence et de la colère, justement. Enfin, la peur que la colère du régime s'abatte sur la population, on va dire. Donc en fait, la colère, elle peut pas rester parce que si elle reste, oui, elle devient elle-même oppressive.
Exactement.
Et elle devient exactement ce qu'elle fuit, on pourrait dire.
C'est donc ça. C'est ça encore, encore et toujours, on se rend compte quand même que la colère qui est pas légitime, c'est celle qui reproduit le cycle de la violence en permanence.
Quoi. Exactement.
Et que la, ce qu'on pourrait appeler une colère légitime, c'est une colère qui règle les problèmes
ouais.
sans s'étendre trop au-delà de son cadre qui lui est imposé. Quoi.
On peut aussi dire que la colère, c'est une forme de défiance vis-à-vis du pouvoir et qu'il y a une forme de courage en fait aussi dans l'expression ouais. de cette colère. Quand elle est... Même quand elle est individuelle, déjà quand elle est individuelle, enfin, c'est déjà assez courageux de s'insurger face aux gens qui nous contrarient et qui nous font du mal. Mais encore plus, j'ai l'impression, quand c'est à l'échelle collective, là, je pense par exemple à la révolution iranienne qui est actuellement en cours. Enfin, en fait, la population qui s'insurge contre le gouvernement oppressif, bah, ça a surpris tout le monde, en fait, de voir cette révolte qui est déjà en marche depuis quelques années, mais qui a atteint son pic actuellement. Cette révolte très soudaine, parce que, justement, c'est vraiment une forme de... Enfin, cette colère-là, elle est exprimée par une forme de défiance presque aveugle et presque, on pourrait dire, pas inconsciente, mais oui, qui n'a pas peur, en fait. Et j'écoutais un podcast l'autre jour avec justement une invitée iranienne qui parlait du fait que, en fait, c'est toute une génération qui a été éduquée, toute une génération de jeunes iraniens qui a été éduquée sans la peur parce qu'elle a été habituée à un régime oppressif et qui n'a que la colère, en fait.
Okay.
Et qui a ce besoin-là d'exprimer la colère. Parce qu'il y a une nécessité vraiment de s'affranchir du régime oppressif. Mais du coup, c'est dingue parce que c'est vraiment une sorte de génération en fait, qui est juste guidée par le courage presque.
Ouais.
Et du coup, on voit vraiment qu'exprimer cette colère-là, c'est quelque chose de très courageux parce qu'ils savent qu'ils s'exposent à des sanctions, à des violences, à des mises à mort.
Mais aller voir, on a l'impression qu'ils ont rien à perdre en fait.
C'est ça.
Un peu ça, c'est totalement sacrificiel encore presque.
Ouais, complètement. Mais c'est nécessaire, en fait. Et il y a aussi cette idée-là, et elle le disait dans le podcast, que, bah, en fait, s'ils ne l'expriment pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont subir.
Oui, ils vont continuer à subir.
C'est ça. Et en fait, c'est presque vital. C'est comme tu le disais, c'est un élan de vitalité. Il y a vraiment une nécessité dans le fait
mais
de...
C'est pour ça que là, finalement, on retrouve quand même un peu Nietzsche, quoi, dans cette idée-là. Ouais. C'est que tu ne peux pas non plus t'abaisser plus bas que terre, tu ne peux pas non plus perdre ta dignité face à un gouvernement qui ne te respecte pas. Il y a forcément un moment où les gens vont se révolter. Enfin, c'est vrai que la révolte, en fait, elle finit par sembler animale, instinctive, quoi. C'est non,
ouais, complètement.
Me domine pas, arrête. Alors ça, pour le coup, ce niveau-là de la pensée de Nietzsche, il peut être intéressant à conserver.
Complètement.
Du point de vue politique.
Par contre, ce qui est intéressant, je pense aussi, c'est de réfléchir à l'instrumentalisation de la colère. Là, on a dit l'instrumentalisation politique dans le sens, oui, bah, genre l'utiliser comme un moteur de changement social. Mais en fait aussi l'instrumentalisation politique de la colère, enfin, dans le sens, la critique que l'on peut faire colère et la manière dont certaines personnes sur le plan politique peuvent prendre la colère de leurs opposants et la transformer en quelque chose
de discréditant,
discréditant, de ridicule, d'infantilisant parfois aussi, parce que du coup, c'est ce qu'on disait au début, la colère, c'est quand même une émotion très primaire. Et donc, il y a aussi souvent... un truc que les politiques font souvent, je trouve, c'est vraiment discréditer leur opposant en les faisant passer pour des enfants pas contents, quoi. Des enfants capricieux,
c'est sûr.
On va dire. Et notamment, moi, je pense, bah, dans une dimension plus féministe, je pense à souvent au recours à l'hystérie dans les débats politiques, quand c'est des femmes qui sont là et qui débattent. Il y a souvent aussi la dimension... Enfin, souvent, on va avoir tendance à hystériser les femmes qui sont en colère. Donc, à vraiment les faire passer... Pour rappel, l'hystérie, ça a été considérée comme une maladie au 19e siècle. Ça a été étudié par les psychanalystes, donc Freud, et les médecins comme Charcot. Et c'était à l'époque, des maladies psychiques qui aujourd'hui seraient considérées plutôt comme de la dépression ou peut-être de la bipolarité, etc., qui affectaient souvent des femmes. Et en gros, donc l'hystérie, c'était vu comme quelque chose de purement féminin et on pensait que ça venait de l'utérus, enfin bref, mais... c'était parce qu'il y avait des biais d'analyse sexiste, etc. Enfin, en fait, c'est pas du tout une vraie maladie, voilà. Et en fait, du coup, c'est resté dans notre langage aujourd'hui, et c'est utilisé maintenant pour discréditer les femmes et pour les faire passer pour des personnes irrationnelles et les ramener à une condition infantilisante, inférieure, parce qu'elles ont un utérus, enfin, même si c'est pas clairement dit, bien sûr. Voilà, et que
c'est dans le mot, quoi.
C'est dans le mot, et c'est ce que ça sous-tend, en fait.
Ouais.
Et c'est souvent ce qui est utilisé, justement, pour discréditer aussi... Bah, c'était déjà utilisé pour discréditer les suffragettes à l'époque. Tu parlais des suffragettes.
Oui, oui, c'était le gros argument.
Voilà, c'était en fait, elles sont, on va pas les écouter. Ce qu'elles disent, c'est de la colère, mais c'est de la colère pas réfléchie, instinctive. Donc ça a pas de pertinence en fait.
Et puis regardez-les, c'est des bébés, elle, sa femme.
C'est ça.
Enfin, les intéressantes. Enfin, c'était un peu ça quand même.
Et en fait, c'est très facile du coup de discréditer la colère finalement.
Oui, c'est vrai que c'est un peu une arme à double tranchant. C'est que du côté du peuple. On va dire, c'est vécu comme peut-être un moteur de changement.
Ouais.
Mais du côté de l'État, c'est très facile à discréditer, à prendre en compte et à se dire... Ben... Et c'est peut-être aussi pour ça que dans notre société, l'image de la colère est aussi péjorative et qu'elle est toujours associée à de la destruction, alors qu'on a vu dans de nombreux exemples que la colère pouvait être utilisée à des fins de construction,
c'est ça.
Et de sublimation et d'esthétique et de changement. Mais en fait, ce qu'on retient surtout, c'est quand même l'aspect destructeur et désorganisant, comme on l'a évoqué avec Platon.
Exactement. Donc en fait, je pense que ce qui est important à saisir dans la colère, ce qu'il faut reconnaître en fait, c'est que quand on a quelqu'un en colère en face de nous, il faut reconnaître l'idée que la colère, elle a une raison et un moteur,
ouais.
Et que si elle s'exprime, peut-être pas tout le temps, des fois ça peut être absurde, bien sûr, mais partir du principe que si elle s'exprime, c'est qu'il y a une raison, et en fait c'est que il faut écouter les revendications en fait qu'il y a derrière. Il faut essayer de voir à travers. Et donc, il y a vraiment aussi, je pense, la nécessité de se mettre dans une forme d'empathie face à notre interlocuteur.
Après, c'est très compliqué. Par exemple, quand t'es enfant et que t'as un parent ou un grand-parent qui s'énerve contre toi, ça peut être très intimidant. Et c'est pour ça qu'il faut aussi qu'on souligne l'importance de la gestion de la colère aussi face aux autres. C'est qu'il y a une double responsabilité qui se joue ici. La responsabilité de l'interlocuteur qui doit se mettre à l'écoute de la revendication, mais aussi de la personne en colère qui ne peut pas non plus trop déborder de son cadre.
C'est ça.
Parce que du coup, c'est aussi atteindre l'autre, c'est plus exprimer sa colère, c'est faire du mal à l'autre.
Mais j'ai envie de dire, en fait, à partir du moment où on fait la place nécessaire pour que la colère puisse être écoutée, généralement, elle ne déborde pas. C'est aussi en fait, je pense. Plus on essaie de la silencier et de la faire disparaître, plus elle est explosive, j'ai l'impression.
Je suis d'accord, mais pour moi, ça, c'est vraiment... De toute façon, on peut faire de la place à la colère, à l'expression de la colère, que dans un contexte où c'est deux adultes qui se font face, ou des adultes. Et les enfants, pour le coup, je pense qu'ils n'auront pas les outils pour laisser la place à de la colère, parce que pour eux, c'est juste agressif et violent dans tous les cas.
Je pense que ça passe vraiment, en effet, par l'éducation.
Ouais, ce qu'on disait au début, comment est-ce qu'on apprend à être en colère, au final, comment... apprendre à être en colère, c'est aussi apprendre à recevoir
la colère. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Apprendre à la recevoir et à l'accepter, et accepter que les autres ont le droit à s'indigner, et peut-être définir un droit à la colère aussi. Finalement.
Je vous renvoie vers l'ouvrage de Sophie Galabru, Le visage de nos colères, qui est apparu il y a 2 ans en fait déjà. Mais très instructif sur toutes ces dimensions de la colère si vous voulez approfondir le sujet. Vous venez d'écouter Radio Pium, diffusé un dimanche sur 4 à 20h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Au micro, c'était Marianne Varem, Maëlle Bouvray et Tibor Decha à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer et autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse opium.radiopium@gmail.com si vous avez des questions à nous poser. Merci de nous avoir écoutés et à dans un mois.